At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Salut à toi et bienvenue au Phoenix Podcast. Aujourd'hui, premier épisode de la saison numéro 2, j'étais avec mon associé Samuel. On vous parle, dans le fond, on fait une interview pour que vous appreniez à nous connaître davantage. On a parlé, dans le fond, de notre relation avec l'alimentation. On a parlé de notre vision des choses au niveau de la santé. On s'est mis dans le contexte de si on était, exemple, l'autorité pour aider les gens au Canada à être plus en santé. Écoutez ça, ça va être super intéressant comme interview. Avant de commencer, je tiens à spécifier, Samuel et moi et tous les membres de l'équipe, on n'est pas des docteurs, on n'est pas des diététistes, des nutritionnistes, on n'est pas des psychologues et on n'est surtout pas des pharmaciens. On est des naturopathes, on vous partage notre expérience personnelle, client, on vous partage qu'est-ce qu'on a pu voir en clinique aussi. Donc, toujours prendre soin de vous informer à des vrais bons spécialistes dans le domaine de la santé avant de faire tout changement dans votre mode de vie. Hey, bienvenue au Phoenix Podcast. Aujourd'hui, j'étais avec mon associé Samuel pour le premier épisode de la saison 2 de notre podcast. On commence ça. Sam, aujourd'hui, on a décidé d'utiliser un petit concept qui est quand même différent de ce qu'on fait habituellement. D'habitude, on partage full de connaissances. Puis aujourd'hui, on a décidé de montrer dans le fond à notre communauté, de montrer un petit peu aux internautes comment est-ce qu'on fonctionne, qui on est, savoir un peu notre expérience dans le domaine de l'alimentation, notre background, toute l'équipe. Fait que, comment ça va, Sam, en premier lieu?
Ça va super bien, toi?
Ouais, ça va super bien. Je pense que ça va vraiment, vraiment être un beau podcast. Ça va être super le fun, puis ça va faire en sorte que le monde va apprendre à te connaître un peu plus. Fait que, es-tu prêt? On commence tout ça?
Yes, sir.
Good. Fait que, en fait, gang, on va juste vous partager notre vécu par rapport à l'alimentation, par rapport à l'entraînement, comment est-ce qu'on est embarqué dans ce domaine-là. Au début, je vais interviewer Sam, puis Sam va pouvoir nous répondre à ses questions, puis ensuite, il va pouvoir faire la même chose pour moi. Puis c'est vraiment juste pour que vous appreniez à nous connaître. Fait que, Sam, comment ça a commencé ta passion au niveau de l'entraînement, au niveau de la santé puis de l'équipe? Parle-moi un petit peu de ça, de tes débuts dans ça.
Ouais, puis juste revenir dans le fond, pour ceux qui commencent à écouter notre podcast ou pour peu importe la raison, on avait fait évidemment la saison 1 et le premier épisode de la saison 1 était sur, dans le fond, qui qu'on est, de où qu'on part, mais principalement le background, comment qu'on s'est rencontrés, c'est quoi le Phoenix, c'est quoi l'histoire derrière le Phoenix, c'est surtout ça. Mm. Aujourd'hui, c'est pas tant de, t'sais, notre histoire nécessairement, mais plus notre vision, on va dire, par rapport à l'alimentation.
Ouais,
fait que, t'sais, peut-être des choses qu'on va redire qui se ressemblent, mais au bout de la ligne, c'est ça. Fait que pour répondre à ta question, c'est à partir de où, t'sais, moi, je m'étais mis des petites notes, puis je pourrais te parler pendant, ben, vraiment fort pour toi, là, t'sais, on pourrait aller un peu à la large, mais mettons, si j'avais à dire de où que ça part ma passion pour ça, puis je pense que j'en avais parlé rapidement dans le premier podcast de toute la saison 1, c'est que quand j'étais vraiment jeune, à l'âge peut-être de 13-14 ans, un de mes amis d'enfance, que s'il écoute le podcast, il va savoir aussi, habitait à côté de chez nous, en fait, à côté de chez ma mère, dans la même rue, une rue résidentielle. À chaque fois qu'on sortait de l'autobus, dans le fond, il venait chez nous, chez ma mère, dans le sous-sol. Yep. Puis ça me ferait, quand je le dis, mais on faisait des push-ups sur des pots de peinture. Puis ça n'a pas rapport, dans le fond. On avait deux pots de peinture, puis maintenant, on faisait un push-up de même, puis un push-up de l'autre bord, puis là, on sautait d'un bord.
Ça n'avait absolument aucun rapport.
On faisait juste du chess, là. Juste du chess. En tout cas, c'était n'importe quoi. Puis là, on finissait notre training. On allait, il y avait une grosse côte dans le bois. Ma mère, elle habite dans une campagne. Puis il y avait une grosse côte. On prenait nos vieux vélos, puis le but, c'était de monter la côte sans arrêter. Fait que quand on arrivait en haut, de un, on était essoufflé, mais de deux, on avait les quads qui brûlaient. Puis tu sais, on aimait le feeling. On avait 14 ans. Là. Mm. On aimait ce feeling-là. Puis je me rappelle, mon frère, qui a 4 ans, à peu près plus que moi, un petit peu plus que 4 ans, lui aussi s'entraînait. Ben, tu sais, moi, si j'avais, mettons, j'avais 13, il y avait 17, 18, tu sais, mettons. Puis il commençait à prendre de la protéine en poudre. Puis tu sais, tu recules, mettons, quand j'avais 13, j'arrive sur 30, fait que ça fait 17, mettons 16 ans, ça fait longtemps, mais ça, c'était les suppléments, il y avait des...
Hey
mettons, ça fait pas si longtemps que ça, pareil que ça existe, mais mettons, quand tu recules, voilà 16 ans, c'était pas aussi connu ou c'était pas aussi démontré qu'aujourd'hui. Puis je me rappelle, il prenait de la protéine en poudre qu'il achetait, si je me trompe pas, c'était au Naturiste. Okay. C'est un magasin au Rivière, sur le seul magasin qui existait de suppléments. Probablement Popeye commençait à Popeye à ce moment-là. Là. Puis je me rappelle, j'avais dit à mon ami, Mon frère, il prend des stéroïdes. Genre, mon frère, ça n'a pas de sens. Même, mon
pour
frère,
toi, c'est ça, c'était des stéroïdes.
Ben oui, j'avais aucune connaissance.
Il y a encore du monde qui ont 40-50 ans dans la vie et qui croient encore que le protéine en poudre de la créatine, c'est l'ennemi.
Là. Ouais, exact. Ah, ouais. Fait que tu sais, c'est ça. Ça part de loin là-dedans. On aimait le feeling. Puis si je recule loin, mettons, on va dire côté psychologique, j'ai l'impression que moi, ça part parce que j'avais un manque de confiance. J'ai toujours été un peu chico. Je le suis encore d'ailleurs. Mais tu sais, j'ai toujours été très, très mince, très, très lean. Puis je me rappelle quand j'étais vraiment jeune. Genre, je niaisais mes parents, ma mère principalement, je niaisais en faisant ça, puis je sais qu'elle me disait « arrête de faire ça, c'est dégueulasse ». Je rentrais mon ventre, puis tu voyais mes côtes, là, mais comme mon ventre était sur le bord d'exploser tellement que j'étais mince.
Fait que pas parce que j'étais dénutri, mais... vraiment plus chico, là. T'as toujours une génétique.
Toujours. Super. Ouais. Fait que d'après moi, c'est relié qu'un manque de confiance, en fait, c'est sûr, c'est ça. Puis j'ai voulu m'entraîner pour baisser de la masse musculaire pour avoir plus de confiance.
C'est drôle quand même parce que quand tu fais juste regarder, admettons, dans la société, il y a tellement de personnes qu'on rencontre qui sont, on va dire, génétiquement ectomorphes, comme un peu toi. Ouais. Puis que quand tu es jeune, ton complexe était que tu étais trop petit, pas assez musclé, puis qu'on voyait tes côtes. Puis il y a d'autres personnes qui sont un peu plus type mésomorphe, endomorphe comme moi, où dès l'instant que j'avais une bédaine, que j'avais un petit peu, tu sais, on va dire, de sein et toute la kit, ouais, j'étais ultra complexé. Puis mon but c'était de perdre du poids, puis ton but c'était de prendre de la masse. Fait que c'est fou quand même quand tu regardes ça. À quel point on s'impacte tout le temps de stress au niveau de la société à cause de notre composition corporelle, mais les deux spectrums, les deux opposés, c'est...
On dit souvent le gazon est plus vert chez le voisin.
Ouais,
c'est... moi, je vais toujours vouloir prendre la masse, toi, tu vas toujours vouloir perdre du gras, puis...
Carrément. C'est pour ça que je trouve intéressant l'interview d'aujourd'hui, parce que t'as absolument une réalité différente de la composition corporelle depuis que tu es jeune versus moi.
Mmh. Ouais,
fait que, ça va être vraiment intéressant. Fait que c'est pas mal là que ça a commencé.
Ouais.
On va s'entendre. Les débuts dans le domaine de l'entraînement et tout, tes pots de peinture que tu faisais, tes push-ups, là, c'est pas comme ça que tu vas gagner des gains du bain-bain, mais par rapport à ton expérience et tes compétences à ce moment-là, les connaissances que tu avais, c'était ce que tu étais capable de faire.
Hey, l'autre fois, écoute ça, man. C'est régénérant pour un flash. Ça fait quand même longtemps, là, fait, j'allais dire l'autre fois, ça fait plus qu'un an, là, mais mettons, on va dire l'année passée, je triais des affaires chez nous, genre gros ménage, mettons, classique, qu'on fait une fois par année, là, mes tiroirs d'affaires. Puis là, à un moment donné, je tombe sur quelque chose, puis mon ami, dans le temps, on s'appelait, je n'ai aucune de quoi qu'on s'appelait de même, on s'appelait Nini, N-I-N-I. Okay. Là, je check, je vois une enveloppe, c'est marqué « Training Feet Nini ». Là, je suis comme « Arrête, laisse ce filier à faire ». J'ouvre ça, man, des vieux training, justement, on avait ça, écoute, au crayon de plomb, là, j'écrivais ça dans la cave chez ma mère, là, genre, sûrement assis à terre avec mon ami. Mettons, c'était marqué « push-up 3x10 », mettons, tu sais, en tout cas, ça me faisait vraiment rire, puis c'était des vieux, vieux training, puis je regardais ça, puis j'étais comme, tu sais, le pire, c'est que c'était encore, ça fonctionnerait pareil encore aujourd'hui, faire 3x10 de push-up, c'est juste que de la façon où c'était écrit, puis tu sais, c'était tout croche, mais c'était vieux, puis je trouvais ça nice que j'avais gardé ça.
Honnêtement, ça devait tellement te ramener à ton passé, là, c'est incroyable. OK, ben écoute, c'est un très bon point ce que tu viens de dire. Puis dans le fond, tu sais, c'est quoi qui t'a marqué le plus dans toute ton expérience au niveau de l'activité physique puis tout? Je pense que tu as déjà fait des bonnes transformations physiques, tu as déjà fait des compétitions, toutes ces choses-là. Fait que explique-moi un petit peu ton background là-dedans. Qu'est-ce que tu as vécu dans le fond après toutes les traînées avec Nini? Ben,
faut qu'il écoute ça, faut que j'envoie le podcast. Ah,
c'est pas pendant que tu y envoies. Après toute cette phase-là, à partir de 14 ans, 15 ans, parle-nous un petit peu de ton vécu. Qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi ton background? C'est où t'en es?
Ouais, ben en fait, justement, j'avais sorti deux points face à ça. Puis, tu sais, dans le fond, au niveau expérience, ben, on a 1000, il y a plein d'affaires qu'on fait, mais si j'en ai deux plus. Une qui est très récente, j'ai fait un live d'ailleurs sur ça, puis c'est un peu, je pense, ce qui nous a comme allumé à vouloir faire ce podcast-là. Puis le deuxième point, c'est j'avais fait. Dans le fond, tu as dit, tu as fait des compétitions. J'ai fait une compétition techniquement de fitness. Techniquement, c'était. Comment ça s'appelait ça?
Le classique
physique. Non, ben, c'est ça. Dans le fond, tu avais le bodybuilding classique. Tu as le fitness qui est le men's physique qu'ils appellent. C'est genre des shorts de plage, mettons.
Ouais.
Bodybuilding, c'est genre le G-string.
Oh, ouais.
Puis tu as l'autre entre les deux qui est le classique physique qui existe depuis. Non, lui, c'est comme une espèce de... C'est une short un petit peu plus courte que mes shorts en ce moment. C'est comme une espèce de...
Un genre de maillot de bain.
Un speedo un peu, mais en short.
Okay.
Fait que, en gros, la différence, c'est que le men's physique, si t'as une bonne jambe, mettons, c'est que ça vient comme montrer tes cuisses, tandis que le men's physique, tu vois pas les cuisses, c'est juste principalement les abs, les positions sont différentes. Puis honnêtement, j'ai toujours trippé m'entraîner là-dedans. Puis j'ai été un moment donné, je trippais vraiment sur le bodybuilding. J'ai suivi tout, je trouvais ça nice. Fait que je m'étais inscrit à une compétition de ça. Puis tu sais, j'étais un gars full en plus introverti. Fait que je sais pas comment j'ai. Tu sais, mettons, t'arrives là, il y a plein de monde qui te regarde, t'es en bobette sur un stage. Là. C'est vraiment seul. Bizarre. Là. Mais comme c'était plus une expérience personnelle, je l'ai fait. C'est en 2017. Fait que ça fait 7 ans.
Mettons, le souvenir que t'as au moment où t'étais prêt physiquement. que tu étais derrière les rideaux, puis que là, c'était ton tour, puis il fallait que tu y ailles. C'était quoi? T'avais-tu un petit stress, la petite voix interne?
C'est ce que je faisais deux minutes avant de rentrer sur stage.
Vas-y.
Je bouffais des galettes de riz avec de la confiture dessus. Puis je me faisais une pompe de biceps avec des élastiques. C'était tellement niaiseux.
Ça te stressait-tu comme événement?
À ce moment-là, non. Mais avant, mettons exemple, deux, trois jours avant, oui, définitivement.
Ah ouais.
Mais une fois que j'étais en arrière, il y a plein d'autres personnes. Moi, ce qui m'avait stressé, je sais. Ben, en fait, pas tant stressé, mais on va dire ce qui a fait, oh, attends un peu, je sais pas ça si je suis prêt. Puis tu sais, j'ai eu vraiment. J'ai fini à 3e. Sur 9 ou 12. Okay. Fait, j'ai fait le top 3. Puis j'étais super content. Et je crois que j'étais le plus petit de tout le monde.
Okay.
Mais j'étais un de ceux qui étaient le plus lean. J'étais
condition.
Sur 8 packs. Là. C'était vraiment impressionnant. Mais ce qui m'a un peu fait peur, dans un sens, c'est quand je suis arrivé, il n'y a pas assez de compétiteurs dans des affaires de même. Fait que tu sais, souvent, il faut qu'ils classent les personnes dans des mêmes classes, même si ça devrait avoir plus de classes, mettons, en termes de gros de poids et tout. Puis il y avait des gars dans ma catégorie, là, j'étais comme, man, le gars, il est 6 pieds 2, 2,40.
Ouais,
moi, j'étais genre 5
massifs,
pieds 10, 163. Là.
Ouais.
Fait que j'étais comme, fuck, man, oublie ça. Finalement, je finis top 3.
Okay.
Puis,
mais là, tu vois que c'est pas juste une question de poids, c'est vraiment une question de condition.
Mais tu sais, ça a été une autre étape de ma vie que, honnêtement, au début, après l'avoir faite, je me dis, ah, je vais le refaire. Mais je ne referai plus jamais ça. Juste parce que c'est extrêmement demandant. Puis j'avais fait, je me rappelle, 3 mois avant ma compétition, j'ai arrêté de travailler.
Ouais.
J'avais arrêté de travailler. Je faisais juste ma marche à jour le matin. Je montais dans ce temps-là. J'habitais chez ma mère. Fait, je montais au gym. Je faisais. Tu sais, c'était juste ça.
Ta vie était juste ça.
Ouais, exact. Ouais. Fait que je ne referai pas.
Parce que souvent, on regarde le résultat final, mais les gens sont jaloux du résultat final, mais ne sont pas du tout jaloux de toute la procédure qui a eu à être faite pour se rendre jusque-là. Fait que
non,
ça, c'est des choses que le monde voit pas. Tu sais, hey, j'aimerais ça avoir un SPAC. Ouais, mais pour avoir cette condition-là, as-tu idée la quantité de sacrifices qu'il faut que tu fasses?
Ben d'ailleurs, as-tu vu, par rapport à ça, juste pour que les gens comprennent bien, surtout ça, ben, je vais donner mon autre exemple après que j'ai fait récemment et que je trouve que c'est beaucoup plus équilibré et c'est différent, mais une compétition de fitness comme ça, que tu arrives sur un stage à 5% de gras, là, c'est pas santé. Là.
Mm-hmm.
Genre, c'est pas ça l'objectif. Le but n'est pas d'être en santé. L'objectif est d'avoir la meilleure condition physique au look.
Mm-hmm.
That's it. Tu peux être super faible, avoir des charges de merde, perdre la masse musculaire, pas filer, être brûlé. Mais si tu look bien, tu vas gagner.
Mm.
C'est ça le culturiste. Qu'est-ce qui ressort d'ailleurs? C'est pour ça qu'on a un spray tan, un glaze, ça n'a pas de sens avec la luminosité qui est parfaite. T'sais, tout est fait pour le look.
C'est de la culture
physique.
Fait
que tu le fais pas de façon
sensée.
Santé.
Exactement. Non, fait que tu sais, je pense que là, tu as refait des processus de perte de poids quand même très, très bas. Puis tu as réussi à le faire, mais en augmentant tes marqueurs de santé à x 1000. Fait que tu sais, parle-nous un peu de ce que tu as fait récemment, de réussir à descendre ton pourcentage de gras drastiquement et on va dire. T'es très bas, mais en même temps, avec tout l'équilibre que tu avais, entraînement et tout, fais-nous un petit résumé de ce process-là.
Oui, j'ai fait un live sur ça, sur notre page Facebook, il y a peut-être un mois et demi environ, un mois et demi. J'ai fait un live de 40 minutes, je vais essayer de le résumer en 5 minutes, mettons.
Ouais.
Je vais dire juste les points principaux. Si jamais ça vous intéresse, allez écouter le live tout simplement sur notre page Clinique Phoenix. Mais en gros, dans le fond, je suis parti à 14% de taux de graisse corporelle. Et le 14%, dans le fond, on utilise la machine InBody. Fait que c'est sur la InBody que je l'avais. Là. C'est pas nécessairement avec des pinces, parce qu'il y a plein de façons de le faire. Mais c'était un 14% sur la InBody. Vas-y.
Mettons un point. Sur la bioimpédance InBody, il compte le gras viscéral et le gras corporel. Fait
c'est
que ça. Le 14% va être à peu près un 20-21% de gras sur les pinces en général. C'est à peu près ça l'équivalent. À peu près 5-6%.
En général, en fait, plus que t'es lean,
moins que t'as un gros
moins
écart.
Que ouais,
exactement.
Fait
que, mettons, dans ton cas, on aurait peut-être pu parler d'un 18% sur les pinces à peu près.
Ouais, peut-être. Ouais.
Ouais, pour comparer.
Puis une body de recommande, mais dans le fond, on pas recommande, mais la médiane est de 15%, ce qui veut dire qu'un homme de restitution entre 10 et 20. Fait que, tu sais, le fait que j'étais à 14, tu sais, le pire, c'est juste ça. Puis, c'est ça, j'étais encore en bas de la médiane, mais pour moi, je voulais quand même faire un processus par passion, encore une fois, pas nécessairement juste pour être plus en santé, parce qu'à 14%, je suis super en santé, là. C'est pas ça le point.
Mm-hmm.
C'est que je voulais atteindre, j'avais un objectif, ça fait très longtemps, depuis ma compétition en 2017, que j'avais pas fait de quoi de plus drastique. Puis moi, j'étais un gars assez intense quand j'embarque dans de quoi, fait que je voulais l'essayer. Et mon but, c'était de descendre en bas du 10%. Puis quand j'ai fait les calculs, je partais à Tadoussac avec ma blonde. Cet été, on partait en camping. Puis j'avais 8 semaines pile, fait que 2 mois. Fait que
de 14 à 10%, 4% de gras en l'espace de 8 semaines.
Ça se faisait quand même, mais je me suis dit, c'est parfait. J'ai un défi, j'ai une date, c'est plus facile à suivre. Et en gros, je suis parti à 14%, j'ai atteint 9,7%. Et le point principal, et je l'ai mis en majuscule sur ma feuille, c'est que j'ai atteint ça sans tout couper. Okay?
Mm-hmm.
Je l'ai fait de façon, pour vrai, pas facile, mais quasi.
Mm-hmm.
Okay? J'ai pas, genre, ça m'a demandé beaucoup de sacrifices. J'ai été super intense, mais moi, j'aime ça. Fait qu'au bout de la ligne, ça devient facile.
Ouais, tu comprends? T'es très discipliné, puis tu sais, t'as développé ça. C'est même rendu inné, c'est dans ton identité, la
discipline. Ouais, c'est même plus. C'est ça. C'est même plus dur pour moi de pas être discipliné que
toi,
de
refaire une compétition de fitness, pour être bien honnête avec toi, ça te demanderait 20% de la difficulté que t'avais eu la première, probablement.
Ah, j'aurais pas si de difficulté que ça, mais la seule affaire, c'est qu'avec ce qu'on bâtit, l'entreprise, faire des podcasts,
ça serait rough.
Là, je serais pas capable.
Mais si tu me donnes juste 3
ouais,
mois.
C'est ça, c'est un peu ça pour vrai, mais.
Non,
c'est ça. Fait que je suis passé de 14 à 9,7 et les points principaux, j'en ai sorti 7 très rapides. First, j'ai. Parce que moi, dans le fond, je me suis dit, OK, juste en gros, OK, pour perdre du poids, faut que tu crées un déficit calorique, noir sur blanc. Vous le savez, souvent, on le dit dans pratiquement tous les podcasts et on va continuer à le dire. Fait que déficit calorique, parfait. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai calculé mon métabolisme basal. J'ai fait un calcul, j'ai fait mes affaires, parfait. Mon métabolisme basal, au repos, sans rien faire, 1850 calories. Je fais un chiffre rond, il est un petit 10-15 calories en bas de ça, mais 1850. Parfait. Si je fais rien, j'en brûle 1850. Faut que je mange minimum ça. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, à la place de devoir couper mes affaires puis de couper mes toasts, puis mes si, j'aime ça manger des toasts puis des patates, je trouve ça bon, je fuck off, j'ai pas le goût de couper, je vais augmenter ma dépense énergétique. Mm. Parfait. Sans me brûler, parce que je récupérais bien, je dormais 8-9 heures par nuit, ce que tu pourrais pas faire ces temps-ci avec ton
non.
enfant.
C'est à l'arrêt.
Non, c'est ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé mon basal 1850. Je mets ça, OK, je vais venir faire un petit cardio à. Pas à jeun, c'est pas vrai. Un petit cardio le matin avant de travailler, donc de 7 à 8, je commençais à 8. Et de 7 à 7,45, fait 45 minutes soit de marche inclinée sur un tapis roulant ou un petit spinning, pas genre zone 2.
Tu lisais un livre en même temps.
J'écoutais un podcast où je lisais des livres littéralement.
Ouais. Tu étais capable d'être cognitif.
Fait que je le faisais et à chaque fois, j'ai pas de montre, mais quand je regardais sur le tapis, et je sais que je dois pas me fier à ça, mais juste pour avoir un aperçu, ça me disait entre 350 et 500 calories à toutes les fois. Fait que, mettons que tu fais une moyenne de 400, OK? Mm. Même 300 limite dans le minimum. Fait que là, tu additionnes mon basal 1850 plus mon cardio, je suis rendu, on va dire, à 2150. Mm. Là, j'ai juste calculé mon cardio. Là. J'ai pas calculé mon gym que je faisais dans la journée aussi parce que je m'entraînais aussi en muscu. C'était pas mes plus gros trainings parce que j'étais plus brûlé. Mais mettons, rajoute un autre 300 calories. Mm. C'était ça tous les jours. By the way, j'ai pratiquement pas skippé aucune journée en deux
mois. Je pense que tu faisais du 7 jours semaine. Là.
C'est 7 jours par semaine.
Ouais.
Fait que tu ajoutes un autre 300 calories, mon 2150 est rendu 2450. Mettons que tu fais un chiffre en 2500. Mm. J'ai mangé. Dans mes deux mois, 2500 calories à tous les jours. Donc, moi, c'était évident que j'allais perdre du poids parce que juste mon basal de 1850 plus mes deux trainings me donnait approximativement, on fait chiffron, 2500 calories. J'ai pas calculé mon need puis le fait que je vive dans la journée. Là. Donc, tout ce que je faisais de plus, exemple, j'entraîne un client, je fais ça avec mes mains. Le soir, j'allais prendre des marches. La fin de semaine, j'ai couru, j'ai fait de la randonnée beaucoup avec ma blonde pendant ces deux mois-là. J'ai joué au pickleball, j'ai fait du motocross ces fins de semaine. Donc, ça, c'était toutes des additions. Mm. Fait que c'est évident que si je mangeais 2500 calories, il n'y avait aucune chance que je ne perde pas de poids parce que juste basal et mes deux exercices, mes deux trainings, donnait 2500 calories. Tu comprends? Fait que le point que je veux apporter, c'est que moi, à place de me dire je vais couper à 2000 calories, genre, ou 2000, peu importe, je vais augmenter ma dépense énergétique à la place pour me permettre de bouffer mes deux toasts au beurre de peanuts avec mes œufs le matin.
Puis tu marques un très bon point ici parce que la plupart du temps, les gens disent ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de prendre. C'est notre dernier podcast qu'on a fait littéralement, mais ne pas prendre le temps. Mais tu sais, tu disais, parce qu'habituellement ici, tu rentres travailler à 8 heures. Tu commences l'ouverture de la clinique à 8. Tu es arrivé ici à 7h, 7h15, puis tu as créé ce temps-là. Même affaire au niveau de ton alimentation, tu créais ton meal prep comme tu le faisais à l'habitude, mais tu as créé une stratégie qui te donnait les quantités que tu devais manger et tu as respecté ces quantités-là. Puis toi, dès l'instant où tu avais tout mis en place la structure pour réussir à savoir que je mange ça, je sais que je stabilise, mais j'ai plein d'autres activités autour. Là. Mm. Tu t'en vas courir et tout. Fait que c'était inévitable que tu allais réussir à perdre du poids.
C'est évident.
Fait que tu sais, la stratégie comme tu as faite après ça, c'était juste de la mettre en application pendant le nombre de temps que tu avais, puis tu avais une date limite, le 8
semaines. Ouais, c'est ça, ça fait toute la différence.
Fait que t'étais super crinqué, puis... Fait
techniquement, pendant les 8 semaines, là, je suis passé de 14% à 9,7 et j'ai perdu, dans le fond, je suis passé de 174 livres à 164.
Okay.
Et sur le 10 livres que j'ai perdu, c'était 9,9, je pense, je fais un chiffron, là. Sur le 10 livres, j'ai perdu seulement 0,4 livres de masse maigre sèche.
C'est bien.
Et j'ai perdu une livre d'eau. Donc, environ 1,4, 1,5 livres de masse maigre totale. Et la différence, qui est le 8, gros, 5, 9 livres de graisse.
Le gras viscéral a dû baisser de 3 au niveau.
Hey, je suis passé à 2, man.
2, c'est incroyable.
Ouais. Hein. Zone j'ai de passé risque de 4 là, ou 5 à 2. J'étais à 3 et quand je tombais à 9,7, j'étais à 2. J'ai jamais vu ça, en fait, chez aucun client. Sauf mon client qui avait 7 ans, puis que je t'avais déjà dit ça, mais
ah, ben
il était
ça.
À 1. Ouais. Mais j'ai jamais vu ça chez aucun client. Puis tu sais, je le répète, mais l'objectif de ça n'était pas de dire « Oh my God, je vais être plus en santé. » Puis d'ailleurs, justement, c'est mon dernier point. C'était pas pour être plus en santé nécessairement, même que, et là, c'est ça que le point, c'est que je te parle à peu près, là, mais de 11, 12, mettons 12, non pas 12, 11 % à 9,7 énergie a droppé. Mm. Mes charges, je t'en parlais tout à l'heure, du squat. J'ai littéralement droppé quasiment x2 mes charges. Ça n'a pas de sens, là. Peut-être pas x2, mais comme... En fait, non, c'est pas tant ça. C'est que j'avais moins d'endurance.
Le corps commençait à t'envoyer des messages qui étaient...
Articulation un peu, tu sais, ouais. Ça fait plus mal un peu. Je me suis blessé même plusieurs fois dans... Oui, j'ai tombé en motocross, mais, tu sais, mettons, je tombais une petite affaire. Hein, le coup, tu sais, ça gossait, tu comprends?
Ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, ça, c'est un blitz. Est-ce que ça s'attrait à la perte de poids durable? Je pense pas.
Non, c'est ça. Ben non. D'ailleurs, tu me reprends aujourd'hui, puis là, j'ai retombé sur une prise de masse intelligente.
Ça va être le prochain.
Mais aujourd'hui,
podcast,
je suis genre à 11-12%.
Ouais.
Fait que, là, 6 semaines, j'étais à 9,7. 9,7, à moins que ça soit ton mode de vie de faire du fitness tout le temps, puis même là, c'est pas ce que tu devrais maintenir à l'année longue, là.
Mm-hmm.
Fait que c'est ça.
By the way, aussi, tout le monde, le prochain podcast, le podcast 2 de la saison 1, celui-là qu'on va tourner bientôt, il est à propos de la perte de poids durable. Fait que justement, comme Sam vient de parler, tu sais, lui, il a fait un blitz de perte de poids. Il y avait 2 mois, on fait un gros blitz, let's go, on décolle le plus possible. Puis il voulait juste se donner un challenge personnel, pour exemple, un voyage, pour un événement, pour une vacance ou peu importe quoi. C'était personnel à son objectif. Mais il vient de le dire. En faisant autant d'efforts que ça, le corps commençait à lui envoyer des signaux et faisant en sorte qu'il commençait à ressentir des points de fatigue et il a repris ce poids-là. Fait qu'on va parler dans le prochain podcast de justement comment faire en sorte de, oui, on peut faire des blitz, mais comment maintenir la perte de poids et comment on doit avoir comme approche, quelle approche on doit avoir pour réussir à maintenir la perte de poids durable tout le reste de notre vie.
Parce que c'est toujours plus dur de descendre plus que tu descends.
Exactement.
Dans le sens que, mettons, j'étais à 9,7 à la fin, si j'avais voulu continuer, j'aurais pu. C'est parce que je partais en camping puis c'était pas mon but, là. Mais mettons que j'aurais voulu me descendre à 8 % ben de, ou mettons même à 9 % De 9,7 à 9 % je l'aurais trouvé plus dur que de 14 à genre 12.
Absolument.
Pourtant, c'est 0,7 versus 2 %. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il arrive à un stade que ton corps, puis c'est ça qu'on va parler dans l'autre podcast, là, qui s'adapte. Là. Ouais. Tu peux plus. Là.
On va en parler dans l'autre.
En ce moment,
Sam, si, admettons, t'enlèves ce petit blitz-là que t'as fait récemment, pour toi, c'est quoi ta relation avec l'alimentation? Tu sais, l'alimentation, c'est quoi le but d'être? Explique-moi un petit peu comment tu perçois ça, toi, ouais. L'alimentation, le mode de vie équilibré puis tout.
Premièrement, là, ça, je trouve ça super important. Mais puis il n'y a pas juste ça, mais je crois fortement qu'on devrait manger pour les fonctions que ça nous apporte, que ça nous apporte. Et non pas manger... Ouais. La perte de gras, c'est ça? Non, on devrait manger pour les fonctions que ça nous apporte et non manger pour le goût. Et là, attendez... Oui, c'est important de manger, d'avoir du fun et que ça soit bon, que tu aies du goût. Mais le problème, c'est que les gens, et là, pas que je ne m'inclus pas là-dedans, mais je pense que je ne m'inclus pas là-dedans, c'est pas le cas, mais mettons que je mets tout le monde, on a tendance à vouloir... Quand tu t'en vas à l'épicerie, là, la plupart des personnes, c'est comme, qu'est-ce qu'on soupe à soir? Moi, j'ai le goût de manger. Hey, ça, c'est bon, ça, au goût. Hey, mange ça.
Ouais.
Tu n'as aucune idée de ce que ça te fait. Mm. Mais l'affaire, c'est que l'alimentation devrait être perçue pour qu'est-ce que ça t'apporte comme énergie, comme fonction, pour ta digestion, pour ci, pour ça. Tu n'as pas besoin de tout savoir, mais quelle est la fonction que ça va t'apporter et non quel est le goût. Hey, ça a l'air bon, je vais le manger.
Je crois, si je me trompe pas, que c'est le docteur Brouillard, quand j'avais ouvert son livre, qui est juste en arrière, mais...
Il y en a plein.
Mais le docteur Brouillard, qui était un oncologue spécialisé au Canada ici, avait, à l'ouverture de son livre, là, première page d'intro, il avait cité une phrase, puis ça m'avait vraiment marqué, puis ça se réfère directement à ce que tu viens de dire. L'humain, maintenant, vit pour manger et a arrêté de manger pour vivre.
On a parlé dans un autre podcast.
Ouais. Puis je vais continuer de le répéter. Parce que c'est la situation actuelle planétaire, je te dirais. L'humain vit pour manger et a arrêté de manger pour vivre. Fait que tu viens de le dire. Ta vision des choses, c'est de commencer à manger pour vivre une vie palpitante. Commencer à manger pour avoir un corps en santé, pour pouvoir vivre plein d'affaires. Commencer à manger pour être cognitif, pour être conscient, pour être heureux, pour pouvoir, tu sais, bien filer puis tout.
C'est comme l'eau, quand on parlait de l'eau, dans un autre podcast aussi. Oh. Puis tu sais, je disais... Je ne sais plus qu'en fait, c'est dans un podcast qu'on disait ça, mais je disais, mettons, exemple, quelqu'un qui dit « Ah, moi, l'eau, c'est pas bon, ça goûte pas bon. » Mais genre, pourquoi tu dis que ça goûte pas bon? Pourquoi tu dirais pas à la place? Mettons, moi, je bois de l'eau. Là. Depuis tout à l'heure, je bois de l'eau en passant. Tout le monde le voit, là, je le fais. Là. C'est pas parce que « Oh my God, ça goûte bon. » Ça goûte à rien. Là. Je le fais pas pour ça. Je le fais parce que si je bois de l'eau en ce moment, je vais être capable de me faire un bon training tantôt parce que je ne serai pas déshydraté.
Exact.
Moi, c'est ma vision. Donc, je bois pour la... Oui, parce que ça fait du bien des fois de déshydrater, mais pour la fonction que ça va m'apporter. J'aime pas nécessairement ça.
Tu fais ce que tu as à faire et non pas ce que tu as envie de faire.
Fait que c'est un peu, si je reviens à ta question, c'est un peu ça la vision que j'aurais de dire.
C'est bon point.
Fonction et non nécessairement juste le goût. Ben, qu'est-ce que tu as le goût de faire à ce moment-là? T'sais?
Très bon point.
Puis, si je peux enrichir là-dessus, c'est... Et là, évidemment, c'est pas juste de dire... mettons, je vais prendre la viande parce qu'il y a des protéines. Je vais prendre des brocolis parce qu'il y a des fibres. Non, c'est pas ça. Je suis pas fou, là. C'est pas ça le point. Oui, je me le dis des fois dans ma tête, clairement. Mais le point, c'est que je crois fortement qu'il faudrait voir l'alimentation dans un tout, dans le sens que... Et là, souvent, les gens qui voient notre guide d'aliments pourraient peut-être dire le contraire, mais c'est pas la perception que j'ai, et vous allez comprendre. C'est que quand on classe un aliment dans des macronutriments, ça, c'est des protéines, ça, c'est des glucides, ça, c'est des lipides. Dans de la viande, mettons dans du bœuf haché classique, oui, il y a des protéines, c'est très protéiné. Il y a aussi beaucoup de lipides, tu comprends? Mais pourquoi qu'on le classe dans les protéines? Parce qu'il y a plus de protéines. Fait que, faut arrêter de voir l'alimentation comme c'est juste des protéines, c'est juste ci, c'est juste ça. Oui. Je crois que c'est un tout. Par contre, le fait d'avoir les connaissances et de prendre conscience de qu'est-ce que c'est, donc les fonctions, je reviens à ce concept-là, ça, c'est la base et je crois que tout le monde devrait avoir une base au niveau alimentaire, pas juste pour qu'est-ce qui est bon, mais qu'est-ce que ça va t'apporter.
Tu viens de le dire, tout le monde devrait avoir une base alimentaire.
Effectivement.
C'est un gros point que tu viens de dire.
Si tu comprends qu'est-ce que tu fais, je le dis tout le temps, ça va être beaucoup plus facile pour toi de le maintenir sur le long terme que juste si tu le fais pour tu sais pas pour quelle raison. Définitivement.
Absolument. Okay. Ben, en fait, tu sais, récemment, je voyais, c'est un exemple, je pense à ça pendant que tu dis ça, mais
vas-y.
Récemment, j'avais un plan, puis j'avais une affaire à monter. Puis tu sais, j'arrive, je regarde la chose, il y a 1 million de pièces, il y a 25 différentes boats, là, j'arrive, puis si j'ai pas de plan, là, il y a aucune chance que je monte ça, je vais le mettre d'un coin, il va me tanner, puis il va être écœuré. Mais si j'ai un plan, puis que je comprends qu'est-ce que je fais étape par étape, guidé, je vais le monter, puis je l'ai monté, le meuble. Fait que tu sais, au final, je pense...
Je pensais que tu faisais une analogie par rapport à une stratégie alimentaire.
Non.
C'est vraiment un meuble.
Un meuble. Mais tu sais, ça revient un peu à une stratégie alimentaire ou un processus de perte de poids. Ouais. Si tu n'as pas de plan de match, si tu n'as pas rien, si demain matin, tu as une boîte bourrée de plein de petites pièces par-ci, par-là, puis qu'il n'y a rien d'étiqueté, tu ne sais pas où va où, il n'y a aucune chance que tu sois capable de bâtir ce meuble-là. Ou en tout cas, si tu le fais, c'est que tu es vaillant à ta barouette. Mais on parle de peut-être 99%, ou mettons, on va être généreux, 95% du monde vont partir. Puis les charpentiers, menuisiers, gosses à construction vont être capables de le monter. Mais il te faut des skills. Fait que, un processus de perte de poids, souvent, c'est un peu la même affaire comme ça que je le perçois. C'est comme si tu as 1 million de pièces différentes, tu n'as aucune structure, puis il faut que tu te fasses structurer ça. Le dernier point dans tout ça...
En fait, attends, je vais revenir sur une dernière affaire.
Vas-y.
Ben, en fait, tu te passais de ça à question 4?
Ouais.
Oh, OK. Une dernière affaire. Tu sais, tantôt, tu as dit, c'est quoi ta vision? Parle un peu de la vision. Puis tu as dit aussi ta relation avec la nourriture. Je n'ai pas tant parlé de ça, mais mettons, très, très simple. Aujourd'hui, j'ai une bonne relation avec la nourriture. Mais mettons, ça n'a pas toujours été le cas. Et ça, d'ailleurs, je crois que j'en ai parlé dans un podcast rapidement. Mais juste donner un exemple, si jamais c'est pas fait, pour rafraîchir la mémoire pour ceux qui écoutent le podcast à partir de maintenant. Excusez-moi. V'là un bout, dans le fond. En fait, moi, ma vision d'alimentation, quand j'ai commencé à m'entraîner et à aller là-dessus, vu que j'étais tout petit et maigre, je voulais prendre de la masse musculaire. Fait que là, je lisais tout ce qui était possible pour développer de la masse musculaire. Et ce que tu voyais à ce moment-là, puis c'est encore ça de nos jours, mais comme l'espèce de bro science, il faut que tu bouffes plus que ce que tu as faim.
Ouais.
Fait que je mangeais, puis jusqu'à avoir mal au cœur, puis même je l'ai dit dans un podcast, je suis pas mal sûr, j'ai déjà vomi mon saumon dans une assiette, littéralement rien de souper, tellement j'étais plus capable, puis je me forçais à manger mon saumon. J'avais plus faim, là. Mais je revoyais ma phrase en ligne qui disait « faut que tu bouffes pour prendre de la masse », tu comprends? Fait que ça, c'est pas tant une bonne relation avec l'alimentation. En fait, c'est clairement pas une bonne relation. Et après ça, j'ai appris derrière ça comment ça fonctionnait. Fait qu'avant, non, pas tant. Maintenant, oui. Mais, et là, c'est juste un petit mais, des fois, j'adore mon mode de vie, puis genre, je changerai pour rien au monde, je suis super discipliné, j'aime ça, etc. Mais des fois, je me trouve intense.
Ouais.
Puis genre, je suis comme, ah! Tu sais, j'ai beaucoup plus d'équilibre qu'avant, et je vais le garder parce que j'adore ça. Mais des fois, ça arrive, je suis comme, pourquoi je le fais? Tu sais, des fois, je me pose la question, pourquoi je fais ça? T'sais, ça donne quoi, mettons?
Ouais.
Mais j'aime ça, mais je me pose pareil des fois des questions.
Fait dirais,
c'est comme un espèce de raisonnement.
Je te dirais, tu sais, souvent, puis ça va peut-être aider beaucoup d'internautes, mais moi, ma vision des choses a beaucoup changé. Puis tu sais, anciennement, si tu remontes à il y a peut-être, on va dire, un 3, 4, 5 ans, j'étais dans la même situation que toi, puis j'étais beaucoup plus dans l'intensité et l'équipe, puis mon pourcentage de gras était probablement 7-8% plus bas que ce que je suis actuellement. Je sais pas si t'en souviens quand on s'entraîne, c'était en forme ensemble puis tout, mais des fois c'est juste des reprogrammations de notre écosystème, puis des fois c'est des choses qu'on laisse rentrer dans notre vie. Ça peut être une nouvelle copine, comme ça peut être d'autres responsabilités, comme ça peut être un enfant, comme ça peut être plein de choses, mais cette vision-là vient à changer. Fait que tu sais, peut-être que dans 3 ans, dans 4 ans, si un jour tu as un enfant, si un jour, peu importe qu'est-ce qui va arriver dans ta vie, ben tu vas peut-être remettre ça, puis tu vas te dire, OK, ton équilibre va peut-être changer face à ça. Puis ça, c'est quelque chose qu'on s'en va là. Selon toi, l'équilibre alimentaire idéal, c'est quoi? Ta vision.
OK, je vais te dire mon point. D'ailleurs, ça aussi, c'est un autre live que j'avais fait. Fait qu'on fera maintenant un podcast juste sur ça, mais juste très simple. Je crois énormément à l'alimentation intuitive. Et qu'est-ce que ça veut dire l'alimentation intuitive? C'est facile à comprendre, dans le fond. C'est juste, quelle est ton intuition à ce moment-là? Tu le fais. La seule affaire, et c'est un gros mais, c'est que je ne recommande pas l'alimentation intuitive. Pourquoi? Les gens n'ont pas de connaissances. Et je ne dis pas ça de façon négative, quoi que ce soit, mais genre, tu sais, mettons, moi, si j'ai le goût de manger telle affaire, je le sais qu'est-ce qu'il y a dedans. Fait que si jamais je le... ou à peu près. Fait que si jamais je le mange, je suis capable de pallier ailleurs. Puis au bout de la ligne, ça crée ce qu'on appelle un équilibre. Mm-hmm. Le problème avec les gens, c'est que si je dis à quelqu'un qui vient me voir qu'il n'a aucune idée c'est quoi une calorie puis des protéines puis comment on fait pour perdre du poids, puis je dis mange de façon intuitive, c'est l'idéal. C'est ce que je devrais recommander à tout
j'ai
le monde.
J'ai envie de manger des biscuits Oreo. J'ai envie d'arrêter au McDonald's.
C'est ça. Le problème, c'est que ça a le goût de bouffer une poutine parce que mon intuition me dit de manger une poutine. C'est pas ça de l'alimentation intuitive, tu comprends?
Une personne mange une crème molle, a le mal au ventre, mais son intuition est dit de continuer de manger de la crème molle.
c'est ça que je te dis. Ouais, l'alimentation intuitive, pour des personnes qui ont des connaissances, j'adore. Genre, je trouve ça insane. Puis d'ailleurs, pour des sportifs, je trouve ça aussi insane. La seule affaire, c'est que si, puis ça c'est un gros si t'as un objectif, ou un gros mais, si t'as un objectif précis, genre, je reprends mon exemple, je vais atteindre 9,7 ou en bas de 10% en 8 semaines, j'aurais pu le faire de façon intuitive. Probablement que j'aurais réussi, mais peut-être pas en autant de temps, aussi court que ça. Parce que si je mange de façon intuitive, je ne sais pas trop qu'est-ce que je mange. Je vais à peu près, je suis capable d'avoir les connaissances, mais c'est pas aussi mathématique que si je le calcule sur une stratégie qu'à toutes les 3 semaines, je fais mind body, tic. Mm-hmm. Fait que ça se fait. Mais si tu as un objectif précis, exemple une compétition de fitness, ou bien tu es un boxeur ou un combattant d'MMA, puis tu as un poids fixe à atteindre sur une balance, selon moi, c'est un petit peu ridicule de faire de l'alimentation intuitive. Par contre, si tu es un sportif, tu es un cycliste, puis tout ton but, c'est juste d'avoir du gaz à côté, mange des carbs à côté, mange des protéines, puis tu sais, au pire, tu vas trouver un équilibre. Ouais. Mais ça serait pas mal ma vision si j'avais à répondre de quel est l'équilibre alimentaire idéal, j'irais là-dedans.
Tu sais, par rapport à l'alimentation intuitive, après ça, on passera à l'autre, mais par rapport à l'alimentation intuitive, selon moi, il faut que la personne, comme tu as dit tantôt, ait des bonnes connaissances, mais qu'elle ait aussi une bonne relation avec l'alimentation. Tu sais, avoir une bonne relation avec l'alimentation, parce que souvent, les personnes, ils vont manger par émotion, ils vont manger dès qu'ils ont des déceptions, ils vont manger leur ennui, ils vont manger beaucoup de choses d'eux-mêmes. Fait que ça, on va en discuter. Mais l'alimentation intuitive, il faut que tu sois déjà bien aligné puis que tu aies déjà, on va dire, tu sais, il faut que tu aies passé inévitablement par des structures alimentaires, on va dire, ou un protocole ou quelque chose qui va t'avoir montré un chemin. Je ne sais pas si tu me suis.
Ouais, 100%.
C'est vraiment ça. Puis lorsque tu vas vraiment maîtriser ce chemin-là, que tu vas comprendre ton équilibre et que tu vas avoir une belle relation. Tu sais, pour moi, le McDonald's, là, j'en mangerai pas. J'en voudrais pas. Puis je n'ai pas mangé depuis que je suis au secondaire. Ça fait extrêmement longtemps. Des fast-foods de friture, des choses de même, j'en mange pas. Ça fait plus partie de mon équilibre. Fait que ça fera jamais partie d'un côté intuitif. Mais de me dire, ah, j'ai envie de manger du melon. 30 calories pour un demi-melon, OK, moi le faire, tu sais. Fait que c'est d'être capable de programmer ton écosystème pour être prêt à faire du intuitif, mais pour ce faire, ça prend du temps, ça prend de la pratique, puis ça prend beaucoup de connaissances.
Puis encore une fois, quel est le temps que tu veux mettre là-dedans, dans le sens que, tu sais, mettons, moi, je reviens juste à mon exemple de quand j'ai descendu à 9,7%. Pour vrai, mettons, j'avais le goût de... Tu sais, c'est intense ce que je veux dire, mais... Puis pour moi, c'était pas si difficile. Mais si j'avais le goût de prendre un melon d'eau,
c'était
je le faisais pas
parce que c'était restrictif.
Je le faisais pas. Non, j'ai vraiment pas triché, mais j'ai réussi à atteindre, tu sais, j'ai réussi à perdre 10 livres en seulement 8 semaines en étant déjà à 14%. J'aurais pu le faire sur 16 semaines, tu comprends? Et manger le melon d'une fois de temps en temps pis ci, pis ça. Mais moi, mon but, puis de toute façon, je partais comme je te dis en camping, fait que j'avais comme pas le choix, mais reste que ça dépend c'est quoi ton objectif derrière ça.
Okay.
Fait que tu sais, si on pense à quel est l'équilibre alimentaire et comment l'être humain devrait s'alimenter pour avoir une vie saine, Je crois fortement à l'alimentation intuitive si tu as des connaissances. Apprendre à dire oui quand tu sais que tu dois dire oui. Savoir dire oui, savoir dire non selon les moments. Donc, trouver ton point d'équilibre selon quel est ton équilibre à toi, qui n'est pas le même pour chaque personne. Et on est les deux exemples parfaits. Personnellement, mon équilibre est très difficile à atteindre pour bien des personnes. Moi, je ne le trouve pas si pire que ça. Mais ça serait, si j'avais à répondre à ta question, ça serait pas mal dans l'alimentation intuitive, trouver son point d'équilibre. Puis si je peux finir là-dedans, après ça, je vais poser des questions, ça fait déjà 30 minutes. Mais, mettons, avant, je prends, là, c'est mon take personnel, mais mettons, je recule avant, j'avais tendance à vouloir faire plaisir aux gens. Genre, mettons, j'allais à une soirée avec des amis. Sam, t'as pas de bière? Non, je m'en fous, j'en veux pas, tu sais. Come on, une petite bière. Ah, non, pour vrai, ça me tente pas. Ouais, hey, let's go, une petite bière. OK, donne-moi une petite Corona. Tu sais, j'ai vu une Corona, j'étais comme... Ah. D'un, j'aime pas la bière, je me forçais. De deux, tu sais, ça m'apportait rien, mais je le faisais parce que dans ma tête, je faisais plaisir à mon ami. Oh, au bout de la ligne, là, après 10 minutes, ça ne rappelle plus, là, tu comprends? Mm-hmm. Fait que là, maintenant, j'ai mes limites, puis je suis capable de dire, honnêtement, je m'en fous, j'en bois pas
de bière. C'est spécial à dire, mais lui, il devait moins mal se sentir du geste qu'il faisait, de prendre de l'alcool parce que tu avais accepté. Mais tu sais, quand il y a quelqu'un qui décide pour sa santé de ne pas faire une mauvaise habitude, ben là, après ça, tu te sens mal. Là. Puis c'est toi qui es un alien dans tout ça. Mais tu te sens mal de faire des mauvais choix. Fait que tu sais, c'est ça. C'est une justification.
Maintenant, j'ai appris à mettre mes limites, honnêtement. Puis si j'ai le goût de le faire, je vais le faire. Puis oui, j'en mange gâteau des fois. Oui, j'en mange des chips, mais j'ai trouvé mon équilibre.
Fait que tu dis oui quand tu dis oui et que tu as envie par rapport à ton équilibre de dire oui, tu dis non quand tu veux pas.
Et voilà.
C'est comme de même. Ben, c'était super bon. Puis tantôt, on va revenir sur d'autres questions. Mais ouais, fait que ça en montre quand même pas mal. Fait que gang. T'sais, le but, c'est que vous appreniez à nous connaître aujourd'hui. Là, je pense, Sam, on va embarquer dans l'autre aspect de l'interview qui va être un peu plus sur moi, vous expliquer un peu mon passé et tout. Fait que...
On embarque là-dedans. Je te repose la question. C'est pas 100% les mêmes, ça va se ressembler, mais évidemment, ce qu'on a fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est quand on avait répondu à ces questions-là, on l'a fait chacun enfermé dans notre bureau. Fait que j'ai aucune idée de ce que tu vas répondre, t'avais aucune idée de ce que j'allais répondre, ce qui est tout à fait correct, parce que si on l'avait montré... Ah, ben oui, moi aussi, je veux écrire ça, tu sais.
Ouais.
Fait que là, c'est vraiment 100% no take personnel. Fait que, Dieu, je te repose un peu la question, mais comment tu as commencé dans le monde du, tu sais, tout ce qui est santé, alimentation, qu'est-ce qui t'a inspiré à rentrer là-dedans, dans le fond?
En fait, je t'explique un peu. Quand j'étais jeune, moi, j'avais mon frère puis j'avais ma grande sœur, d'où là l'histoire, podcast numéro 2. Mais, Mais quand on était jeune, là, on était une famille, on va dire, bien normale. Ma mère était pas extrêmement, on va dire, ma mère et mon père, c'était pas des aliments très santé puis tout. Ils nous amenaient de la margarine, ils nous amenaient du pain blanc, on se faisait des beurrés de margarine. Après ça, il y avait des petits rouleaux suisses, il y avait tous les gâteaux Vachon, là, on était nourris à ça. Ils nous faisaient des spaghettis, on mangeait quand même des belles viandes, on avait des repas équilibrés, mais il y avait toujours des petites treats. Fait que moi, toute ma jeunesse, j'ai toujours eu, on va dire, un léger surpoids, la petite bedaine, toutes ces choses-là. Je te dirais, depuis mon existence, j'ai toujours eu une petite banane. Puis je me souviens, quand je rentrais, j'allais tout le temps me chercher un petit gâteau, un gros cube de fromage, je faisais fondre ça dans le micro-ondes. C'était les habitudes que j'avais auparavant. Puis un moment donné, ma mère est allée, elle avait entendu parler d'une conférence par ma grand-mère ou je sais pas quoi. Puis c'était notre professeur en naturopathie qui faisait ces conférences-là un dimanche par mois. Puis c'était dans une grande hôtel. Puis là, au début, on arrive là-bas, puis il y a peut-être une quinzaine de personnes. Souvent, c'était tout le temps des personnes âgées qui s'intéressaient à ça. Mais là, Dominique Paradis, il était en train de parler d'un sujet. Monsieur et ma mère étaient allés pour la première fois là-bas. C'était comme fait embarquer par une amie. Puis un moment donné, le professeur est arrivé, puis il a commencé à parler des, on va dire, les perturbateurs de la santé dans la maison. Fait que là, il a commencé à parler de différentes molécules, comme exemple le micro-ondes, l'eau d'aqueduc, l'eau potable, puis tout. Puis un moment donné, il est arrivé sur des molécules, puis il avait dit à tout le monde, faites le devoir. Sur chaque aliment que vous allez consommer, qui sont transformés, comme des gâteaux ou des choses de même, essayez de cibler s'il n'y a pas glucose et fructose ensemble. Puis qu'est-ce qu'il expliquait? C'est que ça va venir endommager beaucoup le foie, et ensuite, il y avait plein de petites cascades, blablabla. Bla, bla. Fait que là, ma mère, un matin, est arrivée à la maison après cette conférence-là, puis tu sais, elle était comme dedans le gourouisme, là. Elle était comme, OK, faut que je prenne soin de ma santé, je vais pogner un cancer, tu sais. Elle disait ça de même. Fait que là, un matin, elle pogne une petite boîte de gâteau, ma boîte de gâteau, elle en sert glucose-fructose. Puis là, un matin, les petits biscuits, glucose-fructose. Puis là, un matin, Fruit Loops, glucose-fructose. Fait que là, elle avait décidé de complètement couper la totalité de tout ce qui contenait du glucose-fructose. Je devais avoir à ce moment-là peut-être 10 ans, 11 ans, peut-être 12 ans, le gros maximum. Je pense 12 ans aux alentours. Fait que là, ma mère a commencé à tout nous changer notre mode de vie, puis tous les aliments transformés qui contenaient du glucose-fructose, elle a commencé à les mettre dehors de la maison. Mais là, moi, je me souviens, notre répercussion à ce moment-là, c'est qu'on chialait, on voulait nos aliments, moi et mon frère. Puis, elle a juste décidé de changer le mode de vie de notre famille. Puis là, on a commencé à embarquer des aliments un petit peu plus naturels, puis tout. Puis je me souviens, je devais, ça, peut-être un 2 ans plus tard, 3 ans, peut-être un... Elle continuait d'aller à ses conférences. Puis là, ma mère continuait de s'informer à plein de petites places de même. Puis elle était en train de changer l'alimentation. Elle avait pris responsabilité de la santé de notre famille. Puis elle s'était dit, je vais apprendre sur l'alimentation. Fait que j'ai vu tranquillement, pas vite, des décisions différentes. À la place, quand tu as un mot de tête de prendre du Tylenol, elle a commencé à nous dire « Prends-toi un verre d'eau avec du sel pour bien t'hydrater. » Puis après ça, fais telle affaire. Mmh. Fait que là, on changeait nos habitudes. Puis un moment donné, je suis allé voir le professeur en question. Ma mère m'avait amené là-bas. C'était super intéressant. Il avait parlé des protéines, glucides, lipides, un peu comme on enseigne régulièrement. Puis je trouvais ça vraiment passionnant. Puis là, je me souviens, je devais avoir 14 ans à peu près à ce moment-là. Il avait donné à ce moment-là un petit pamphlet qui était, on va dire, un compteur de macronutriments. Tu pouvais compter tes fruits, tes légumes, tes protéines, tes glucides, tes lipides, puis c'était des petites roulettes. Puis là, j'avais amené ça au secondaire. Puis là, je regardais mes aliments, puis je calculais un lipide, je prenais une noix, tu sais, des noix. Après ça, je calculais un glucide, je prenais du quinoa ou bien de la nourriture de même. Puis à chaque fois que j'avais de la nourriture, je traînais tout le temps mon petit pamphlet. Puis c'est ça qui a vraiment fait en sorte que j'ai embarqué, on va dire, la conscience alimentaire, puis de commencer à me dire, OK, je vais commencer à calculer qu'est-ce que je mange parce que je veux respecter ce que le guide alimentaire canadien demandait. Je suis plus du tout là en passant, là. Mais je faisais ça. Puis... un moment donné, de bout en bout, j'ai commencé à faire de l'entraînement à partir de 16 ans. Puis tu sais, ce parcours-là a vraiment été une cascade incroyable parce que j'ai eu tout que des débalancements dans ma vie avec l'alimentation puis tout. Mais c'est ça. Fait que tu sais, à 16 ans, j'ai commencé à embarquer dans la salle de gym. Puis c'est à partir de ce moment-là que là, ça a vraiment commencé à changer. Mais c'est ça qui a initié, on va dire, la conscience au niveau de la santé et tout. C'est ma mère qui a pris responsabilité, qui est viré un peu crackpot à ce moment-là. Puis là, on a comme subi, mais en même temps, c'était une très bonne affaire. On a vu une vision différente.
Tu sais, des fois, mettons, t'as dit tout à l'heure, ça me faisait rire, mais mettons, elle a vu, exemple, fructose, glucose, ça fait telle affaire. Et là, elle voit fructose, glucose, puis là, elle panique, elle enlève ça de partout. Tu sais, genre, c'est là quand on parle d'équilibre. C'est correct parce que tu sors d'une conférence, t'es motivé, t'as le goût de tout faire, tu sais, tout brûler ce qui est là-dedans, mais... au bout de la ligne, tu sais que même si tu manges un peu de glucose, fructose,
ouais, mais le problème, c'est qu'il était partout.
C'est ça que je te dis. C'est parce que tu jettes tout.
Ouais.
Fait que là, plus de glucose, fructose. Ouais. Mais même si une fois de temps en temps, une fois par semaine, tu avais un rouleau fruit qu'on appelait. Un
rouleau suisse ou des affaires de même. Mais,
ouais, exact.
Mais tu sais, à ce moment-là, puis moi, ce que j'ai trouvé drôle, mais quand on reparle de ça autour de la table, moi, ma mère avec mon frère, mon père, puis tout, ça a quand même été un coup de circuit de la part du conférencier parce que probablement qu'il n'était pas la seule à faire ça. Mmh. Mais c'est, on va dire, la méthode choc qui a fait en sorte qu'elle a commencé à faire des changements drastiques dans notre famille. Puis c'est là que je te dirais qu'elle a créé deux monstres, mon frère et moi. Mmh. Parce qu'au niveau de l'alimentation, de la santé et tout, on s'est passionné après ça, puis c'est incroyable. Fait que c'est pas mal ça.
Ben d'ailleurs, question, tu sais, la première, c'est beaucoup l'alimentation puis la santé. Ça répond à la question. Tu as comme embarqué un peu dans la deuxième, tu sais, vite, mais mettons, qu'est-ce qui a fait en sorte. Parce que oui, on est dans l'alimentation et la santé, mais si on recule, là, ça fait quoi? Combien de temps qu'on se connaît, Jay?
6 ans.
6 ans?
7 ans.
7 ans.
6, 7.
6, 7, 8 peut-être, je sais pas.
7 ans.
En tout cas, mettons 7 ans. Si on recule, là, 6, 7 ans, les premières fois qu'on s'est rencontrés, on était beaucoup plus dans la performance.
Ben oui.
Je le suis encore, là, mais dans le fond, beaucoup dans plus. Gym, mettons, ouais. Fitness. En fait, beaucoup dans le fitness, je pense que c'est ça le mot.
Ouais.
Ce qui est moins le cas aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, ou du moins, qu'est-ce qui fait que tu t'étais dans le fitness à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a apporté vers le fitness et non juste la santé et l'alimentation?
Je t'explique un peu. À, mettons, 15 ans et demi, 16 ans, j'ai commencé à embarquer au gym. Puis, tu sais, je commençais à avoir des petites connaissances par-ci par-là, mais très, 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 très basic. Genre, j'avais mon petit guide. Je calculais mes 3 portions de protéines recommandées par les guides alimentaires canadiens. Après ça, je prenais mes 5 glucides. Après ça, je prenais mes 3 lipides. Puis, tu sais, je calculais ça de même. Puis, à un moment donné, je m'entraînais. Puis, je me souviens, dans ce temps-là, je jouais au soccer. Puis, j'ai comme une blessure. Fait que j'ai arrêté le soccer. Je commence à m'entraîner temps plein. Puis, à 16 ans, tu embarques dans une salle de gym. Il y a des gros gars. Il y a toutes sortes de personnes. C'est un autre monde. Là. C'est un univers. Puis, je me souviens, je m'entraînais. Puis, moi, comme toi, j'avais entendu « eat big, get big ». Fait que j'ai commencé à manger le matin. Tu peux pas dire ça autrement. Mais j'ai commencé à manger en fou. Puis, tu sais, c'était souvent des pâtes que je mangeais, un gros bol de pâtes. Puis là, ma mère a vu sa facture d'épicerie commencer à augmenter drastiquement.
Ah ouais, classique.
Puis là, je me souviens, je commençais à... Tu sais, je performais, ça allait quand même correct. Je voyais mes résultats augmenter au gym à 16-17 ans. Puis là, un moment donné, il y avait un dude qui était au gym. Il devait avoir 30-35 ans. C'était un coach de football à ce moment-là. Le gars devait peser 250 livres shred. Puis littéralement, le gars, il était extraordinairement sur les stéroïdes. Mais je le savais pas. J'étais pas conscient. Fait que je suis allé le voir. Puis il nous parlait de temps en temps. Puis il me donnait des petits conseils. Petit cul de 16 ans. C'était tellement influençable. N'importe quel conseil tu peux me donner, je veux te ressembler. C'était rien que ça dans ma tête. Le gars, je l'ai payé pour qu'il me fasse une diète. Mais la diète, mon gars, là, je souhaite de tout cœur retrouver un jour cette diète-là dans les vieilles affaires à mes parents. Là. Mais j'avais deux bagels multigrains à 380 calories à déjeuner chaque matin avec 4 œufs, 8 blancs d'œufs. Je me souviens précisément de ça. J'avais du fromage cottage avec deux fruits. Écoute, je devais manger minimum 5000 calories par jour. À 16-17 ans, quand tu commences ton initiation à l'entraînement, puis là, tu es en bulking, tu es en prise de masse musculaire. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? J'ai suivi sa diète. Mais en même temps, il m'avait dit « Plus tu peux manger, plus tu vas prendre de poids. »
C'est ça, c'est le classique, si on entend
tout ça. Classique. Hein? Mais je travaillais à ce moment-là au Maxi, à Chicoutimi. Puis je me souviens, je mangeais à toutes mes briques le muffin. Là. Mais tu sais, un gros muffin au chocolat, aux carottes, le kit. Fait que bref, mon mode de vie est extrêmement déséquilibré. Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai passé d'un petit cul avec une petite bedaine à un gros cul avec une grosse bedaine. Fait que je me suis ramassé en très, très fort surpoids, voire en obésité. Fait qu'à 17 ans et demi, 18 ans, après un an et demi d'expérience au gym, je me suis ramassé à 217-218 livres. J'étais allé la première fois faire prendre mon pourcentage de gras avec les pinces, puis j'étais à 33-34% de gras. J'étais inflammé, mon gars. Je me souviens, j'avais des plaques rouges au niveau du visage. J'avais plein de petits, on va dire, de petits boutons de chaleur au niveau du bras, qui m'avaient dit que c'était le foie, je vous oppose, mais j'avais plein de petites plaques rouges partout sur le corps. J'avais vraiment, vraiment beaucoup d'accumulation au niveau du pectoral. J'étais mal dans mon corps. Puis au final, je voulais juste devenir gros et massif. Puis moi, j'ai eu une phase d'obésité, on va dire. Tu sais, si c'était pas l'obésité, c'était un surpoids très fortement pondéré.
Ben 33%, c'est de l'obésité. Là.
C'est de l'obésité, ouais. Techniquement. Fait qu'à ce moment-là, j'étais complètement perdu. Je venais de scraper, on va dire, ma santé. Puis je me souviens, je venais de... Écoute, ça faisait... Depuis que j'étais ticu que je jouais au soccer, là, j'ai joué au soccer pendant 10-12 ans de ma vie. Là, puis j'ai quand même joué compétitif. Là, puis j'ai pas fait de cardio, je faisais juste de la musculation. Puis j'étais vraiment dans l'entraînement all the way. Puis j'ai passé par cette phase-là où il a fallu que j'apprenne que la relation avec l'alimentation était vraiment plus bonne. Là. Puis tu sais, quand tu commences à manger excessivement de mal nourriture, on dirait que ton corps, quand tu arrives pour en faire un sevrage, ça te fait mal. C'est pas le fun. Fait que je suis allé voir un entraîneur, puis je me souviens très bien, cet entraîneur-là, il faisait juste coacher du bodybuilding puis des choses de même. Il était pas du tout dans l'équilibre comme nous autres on fait, puis de créer des modes de vie qui vont être équilibrés. Puis... Fait que qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je suis allé le voir.
Juste dire ce qui est quand même correct dans le sens que, tu sais, si ton but est de faire du bodybuilding, si moi je voulais refaire une compétition de bodybuilding, j'irais voir un coach qui fait juste du bodybuilding, absolument. Tu comprends? Mais absolument. Dans ta situation qui n'était peut-être pas nécessairement ton objectif, c'est là que c'était peut-être pas l'idéal, mais ce que c'est pas nécessairement néfaste, mettons.
Non, vraiment pas. Puis ce que j'avais, ben, tu sais, en fait, c'est parce que dans mon courant de vie, j'allais devoir développer la capacité de pouvoir gérer mon poids de façon saine et durable, mais c'était pas le cas.
Non,
puis dans ce moment-là, j'étais en phase d'obésité, j'étais perdu complètement, j'avais aucune base dedans, la perte de poids ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, c'était « mange beaucoup », fait que je mangeais le plus possible, mais peu importe de quoi.
Ouais, c'est ça le problème.
Fait que quand je t'allais le voir, j'avais besoin, on va dire, quasiment d'un lieutenant, là, un sergent qui me dit « tu me fais ça, tu fais ci, tu fais ça ». Fait qu'il m'a donné une diète. Je l'ai encore, je sais, dans mon bureau en ce moment. Puis écoute, c'était du steak de cheval pour déjeuner, avec une cuillère d'huile d'olive à l'intérieur, avec une tasse et demie de bleuet. La collation, c'était 2 scoops de protéines, 1 galette de riz. Le dîner, c'était 220 grammes de poulet avec 1 cuillère d'huile d'olive puis des brocolis. La collation d'après-midi, c'était 1 scoop et demie de protéines avec 1 tasse de bleuet. Et mon souper était tout le temps c'était du poisson blanc avec genre du riz basmati bon. Quand même. Puis le soir, je remangeais du steak de cheval avant d'aller me coucher.
Avec des bleuets.
Il n'y avait aucune raison de pourquoi tout était là. Mais
ben, peut-être que tu dois avoir perdu du poids, mon gars.
Écoute, à ce moment-là, ce qui est intéressant, puis ça a un peu changé ma vie, puis je pense que je peux le remercier. Puis honnêtement, si un jour il écoute le podcast, je dirais pas son nom, là, mais ça reste quand même qu'il a changé la vie du petit cul parce que j'ai tellement été protocolaire là-dessus, puis il n'a absolument rien fait. On s'est genre jamais fait de suivi. Il m'a juste donné une diète. Une diète, je le dis, c'est une diète. Je suis parti dans mon char, je regardais ça, j'étais craqué à fond, puis je voulais juste vraiment avoir des résultats. Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai fini à 6,2% de gras 6 mois plus tard. C'était dégueulasse, mais j'ai fondu, mon gars. Je m'entraînais, puis dedans son plan, il y a un point que j'avais marqué ici. Je me souviens très bien. Check bien ce que j'avais fait. Puis quand on parle d'une diète restrictive, Je faisais 5 séances de cardio à jeun de 45 minutes à 1 heure et je courais. J'allais à l'extérieur puis j'avais commencé de la marche rapide puis j'avais fini avec de la course. Je m'entraînais en moyenne des fois 2 fois par jour, mais je faisais en moyenne 2 heures par jour. Fait que je faisais en général 3 gros groupes musculaires. Je prenais à peu près 400$ de supplément. Je me souviens dans le temps, c'était Atomic Nutrition. Puis le gars t'achetait pour 2$ puis te donnait 20$ de supplément. Mais je devais prendre pour 400$ de supplément. J'ai tout essayé, supplément possible. J'étais littéralement un accro à la perte de poids. Puis j'étais dans la phase que tu disais. J'étais prêt à faire une compétition dans ma tête. Parce que dès l'instant qu'il y avait quelqu'un qui me proposait un bleuet de plus, c'était, écoute, il me disait 152 grammes de riz. Je mangeais 152 grammes. S'il y avait 156, il y avait 4 grammes de trop, je l'enlevais. Puis c'était excessif demain, mon affaire. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis arrivé à 6,2, 6,3% de gras au plus faible que j'ai eu. J'étais littéralement pris compétition. Puis je me souviens, j'avais vu les veines sur mes abdos à ce moment-là. Puis j'ai repris une bonne partie du poids pour remonter, me stabiliser aux alentours de 15%. Puis après ça, j'ai commencé à maintenir dans ces environs-là tout le temps. Mais tu sais, tout ça pour dire que j'ai eu l'extrême où j'ai été en très fort surpoids, l'autre opposé du spectrum où j'ai été très, très, très cut. Puis ma relation, puis je pense que ça va être une des prochaines questions là-dessus, mais elle n'avait jamais été bonne autant en six-pack, autant en bedaine. Ça a toujours été la même à cause de la force que j'avais eue, de, on va dire, quand j'étais plus en surpoids. Ça l'avait tellement joué la psychologie de mon cerveau, la perception de moi-même et tout, que je voulais tout le temps essayer de me valoriser, de me prouver, puis tout. Puis ça m'a vraiment affecté. Puis ça, ça a pris du temps avant de réussir à aller vaincre ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver là-dedans parce que quand tu prends du poids à cause d'un accouchement ou à cause de l'andropause ou à cause de mille et un facteurs, tu peux avoir eu un décès dans ta vie puis tu l'as échappé, tu as pris 40-50 livres, tu viens à te créer une perception de toi-même négative, mais même quand tu repères ce poids-là, ça va quand même continuer de t'affecter. Tu vas quand même avoir un down puis te les quittes. Puis ça, c'est des choses que, tu sais, c'est pour ça que c'est le fun comme rencontre aujourd'hui. T'as jamais eu à vivre d'événements de même. Toi, c'était un autre opposé. T'étais tout petit, t'étais le plus petit de la gang et tout. Moi, c'était l'inverse. Ça a été une phase où j'ai toujours été en surpoids, puis j'ai déjà eu une phase de gros surpoids, puis tout. Fait que c'est un peu ça en tant que tel, mon expérience personnelle avec la transformation physique, puis tout.
Si je transitionne, je te dirais, vu que t'as vécu le fait que tu manges des muffins au chocolat puis 12 bagels pour déjeuner, t'es tombé à 33%, et que tu as vécu les bleuets et le cheval pour déjeuner avec de l'huile d'olive qui tombait à 6-7%.
Cheval, c'était bon.
Si tu regardes aujourd'hui, quel serait aujourd'hui ton équilibre alimentaire et comment tu penses qu'on devrait s'alimenter, dans ton opinion, mettons?
Je te dirais, tu sais, j'ai souvent eu, moi, toute ma vie, des up and down. C'est que, tu sais, mettons, je fonctionnais beaucoup par périodisation, mais je me suis rendu compte que pour moi, pour mon équilibre, c'était pas ce qui était fonctionnel. Parce que, tu sais, on va en parler dans des prochains podcasts, mais lorsque ton corps crée des adipocytes, des cellules adipeuses, exemple que tu as déjà pris 50 livres, tu as beau perdre ton 50 livres, les adipocytes restent présents dans ton corps. Fait que tu as une capacité à pouvoir reprendre ce poids-là plus facilement qu'une personne qui n'a jamais développé ces 50 livres-là. Mais ça, on en discutera dans un autre sujet. Mais moi, dans le fond, c'est pas compliqué. Le but dans tout ça, c'est qu'il a fallu que je trouve un équilibre de vie, de réussir à me programmer à toujours rester, on va dire, dans une base de contrôle. Pourquoi? Parce que mettons que je fais une perte de poids, puis que je coupe mes calories ou que j'augmente mon NEAT, mon activité physique et tout, puis que je commence à embarquer dans une phase de restriction et que je ne suis pas capable de la maintenir sur le long terme, inévitablement, mon corps va tendre à vouloir récupérer un petit peu plus de poids par la suite, puis je m'en rends compte. Littéralement, récemment, écoute, je suis donné un processus de perte de poids, je suis descendu à 187, 188 livres, je suis allé au chalet une semaine de temps, puis tu sais, c'était peut-être une consommation alcoolisée par jour avec mon frère, avec mon père, puis tout dans le spa. J'ai mangé peut-être une fois un petit bol de chips, puis sinon, c'était juste, on mange, mettons, comme dîner des wraps, puis le souper, on s'est fait une fois des burgers, des choses de même, puis je suis revenu, je pesais 197. C'est dégueulasse comment j'avais de la rétention d'eau. 3 jours plus tard, j'avais reperdu déjà, puis j'étais déjà rendu à 192. Mais ça reste quand même que le corps, moi, il a fallu que je me rende compte qu'il faut que je réussisse à garder tout le temps une stabilité dans mes calories, une stabilité dans mon activité physique. Parce que si en ce moment, je mange 2800 calories, que je m'entraîne 5 fois semaine, dès l'instant que je descends à 2400 puis que je compte, tu sais, je m'entraîne 6-7 fois semaine, ben dès l'instant que je vais revenir à 2800, mon corps va réagir. En tout cas, c'est ça que j'ai pu remarquer. Fait que chaque personne a un physique différent et une façon de que le poids se gère différemment par rapport à tes hormones, tes neurotransmetteurs. On va en parler dans le prochain podcast, ça va vraiment être intéressant. Mais moi, mon équilibre à moi, personnel, c'est qu'il faut que je sois capable de toujours garder un contrôle et que dès l'instant où je vais aller manger un écart puis que je fais juste diminuer mon activité physique, je reprends du poids facilement.
Mais mettons, là ça c'est ton personnel, genre toi. Puis si je te relance avec la question, quel devrait être Parce que, tu sais...
L'équilibre des
gens. Ouais, l'équilibre exactement des gens. Parce que moi, mettons, tantôt, je te disais, personnellement, je suis très, très dans... Tu sais, oui, je suis dans l'équilibre. Je considère que je suis là-dedans, mais je suis beaucoup plus excessif, on va dire, que toi.
Ouais.
Mais après ça, j'ai dit que selon les gens en général, qu'est-ce que toi, tu dirais aux personnes qui seraient l'idéal? Mettons, à des clients qui viennent te voir, genre.
Pour trouver l'équilibre et tout?
Ouais, quel devrait être l'équilibre d'un être humain pour l'alimentation?
On est conçu, nous, l'être humain, pour être des chasseurs, cueilleurs, pêcheurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas conçu pour manger des Doritos et des Pop-Tarts licorne. On est conçu pour marcher des dizaines de milliers de pas par jour. Parce qu'à la base, si demain matin, le système complet dans lequel on vit crache, il n'y a plus de système de santé, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de finances, il n'y a plus de cartes, on retombe à devoir chasser, bien littéralement, chaque personne qui sont en très fort surpoids vont devoir se mettre à marcher 10 000 pas, sinon ils ne survivront pas. Fait que moi, l'équilibre que je prône, c'est vous devez prendre responsabilité d'aller marcher et vous devez manger des aliments naturels. Puis moi, selon moi, l'équilibre en 2024-2025, c'est de manger des aliments qui ont un ingrédient, deux ingrédients, le plus simple possible. Très riche en protéines parce que demain matin, si tu trouves un bison puis qu'il n'y a plus de système autour de toi pour te protéger, tu vas le manger le bison. Fait que inévitablement, les protéines, c'est un élément primaire. Fait que compte tes protéines, bouge, fais des pas, marche énormément. Et mange le moins transformé possible, mange ce que la nature peut te permettre d'obtenir. Moi, c'est ça, selon moi, l'équilibre. Quand on commence à embarquer dans le déséquilibre, ma définition du déséquilibre, c'est le fait qu'on va commencer à manger des aliments, justement comme tu as dit tantôt, pour le goût et non pas pour qu'est-ce que ça fait. Puis tout ce que la terre nous donne, en général, nous donne beaucoup de nutriments, de micronutriments, puis il nous permet d'avoir plein de fonctions dans notre organisme. Mais tout ce qui est fait dans une usine, en général, va quasiment s'appeler, on va dire, des antinutriments. C'est que ça va créer des répercussions négatives, inflammatoires ou des dommages dans ton organisme. Fait que, pour résumer tout ça, manger naturel, manger le moins transformé, faites en sorte de combler vos protéines parce que c'est des éléments premiers et bougez. Moi, c'est ça mon équilibre.
Qu'est-ce que je te relance avec une dernière question? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit « moi, je fais ça », mais mettons, exemple, le week-end, j'aime ça me pogner une pizza, j'aime ça boire une petite coupe de vin de temps en temps. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Bien, littéralement, hier, j'ai rencontré une femme, puis c'est un bel exemple parfait là. La femme, elle a mangé une alimentation extrêmement équilibrée dans un processus de perte de poids. Elle a une possibilité de pouvoir créer un déficit de 200 calories parce qu'elle bouge pas tant. Fait qu'elle a 200 calories de marge d'erreur dans son alimentation chaque jour. Puis là, la fin de semaine, elle a décidé d'aller manger une pizza. Fait qu'elle s'est mangé deux pointes de pizza à 650 calories chaque. Elle avait perdu dans toute sa semaine à peu près 1200 calories. Puis elle est allée récupérer peut-être 1400 calories dans toute sa fin de semaine. Fait qu'au final, elle, son équilibre, c'est qu'elle mange deux pointes de pizza, elle récupère tout le poids qu'elle a perdu puis tous les efforts qu'elle a fait dans sa semaine. Moi, mon équilibre, c'est... Si, exemple, je m'en vais bouger 5 jours dans ma semaine, que je vais marcher 12 000 pas, que total, j'ai brûlé 800 calories par jour pendant 7 jours, ce qui me fait un total de 5 000 calories brûlées, puis que je vais aller manger deux pointes de pizza pour un total de 1200 calories, c'est un équilibre selon moi parce que je vais quand même être en déficit calorique.
Donc, fait ça dépend de ta dépense énergétique.
Exactement. L'équilibre selon moi, c'est chaque personne a un équilibre différent et c'est ça qui doit être défini et équilibré. Puis c'est ça qui doit être adapté. Parce qu'un entrepreneur qui a deux enfants, qui travaille 60 heures par semaine, qui est tout le temps sur la route, n'a pas du tout le même équilibre que la mère au foyer qui doit gérer deux enfants, qui s'entraîne, qui... Tu sais, c'est pas du tout la même réalité. Fait que de trouver cet équilibre-là, c'est ça le point.
Parfait. Très intéressant. Je vois, dans le fond, on avait deux autres questions qu'on avait sorties. Je t'en pose une autre. Si demain matin, tu tombais responsable de la santé publique canadienne, qu'est-ce que tu changerais? Pour améliorer la santé des Canadiens, évidemment.
Écoute, si demain matin...
T'es le responsable de Santé Canada.
Fait que c'est moi qui prends les décisions pour améliorer la santé des Canadiens.
Qu'est-ce que tu ferais?
Écoute, premièrement, une réforme à 360 degrés de tout le système de santé et ben, en fait de tout le système éducatif. Parce que je ne pense pas que c'est le problème du système de santé actuel. On met beaucoup d'emphase là-dessus. Mais le système éducatif met aucun emphase sur la santé et n'apprend en aucun point comment être en santé puis tout. Il n'y a aucun ou presque aucun cours de nutrition et malheureusement, j'enlèverais tout, on va dire, le lobbying autour de ça. Parce que ce qui est indiqué dans les formations, autant dans plusieurs cours, je ne dirais pas les cours puis tout, mais ce qui est indiqué dans ces formations-là est beaucoup plus basé sur le lobbying et les grosses compagnies canadiennes, comme le lait, comme le blé, comme toutes ces choses-là, que basé sur les vrais fonctionnels. Ça, premièrement, c'est la première chose que je ferais. Deuxièmement, je referais complètement le tableau des valeurs nutritives des aliments de A à Z et je donnerais littéralement à la télévision un poste général à tout le monde pour t'enseigner la nutrition et comment être capable de bien comprendre tout ça. Et un point aussi là-dedans, c'est que je mettrais tout le temps, chaque OGM, produit chimique et agent transformé, agent chimique, en valeur de chaque aliment. C'est obligatoire. Ça veut dire qu'ils doivent être en rouge. Ils doivent avoir... Dans ce produit-là, il y a 5 produits chimiques. Dans ce produit-là, il y a 2 agents de conservation. Puis il faut absolument que ce soit indiqué. Parce que là, les gens s'empoisonnent en raison de ces aliments-là qui sont même pas conscients qu'ils sont à l'intérieur. Puis on n'a jamais enseigné quoi que ce soit. Et le dernier point, puis ça, je pense c'est elle qui chamboulerait beaucoup d'affaires.
Attends, je revenais sur ton point.
Vas-y.
Je te relance avec une question de moi, mais tu trouves pas que si tu faisais ça, exemple, tu mettais agent en rouge, tout le kit, crois-tu que ça augmenterait l'anxiété chez les gens?
C'est une bonne question.
Parce que tu sais, on vit dans un monde aujourd'hui que l'anxiété est présente sur un pas pire temps. Là.
Quelle est la raison de cette anxiété-là? Les réseaux sociaux, les mille, produits chimiques, la toxicité, le manque de temps, les...
T'sais, non, il y en a plein. Ça, c'est multifactoriel selon chaque personne. Mais tu sais, le fait... Bon, en fait, je te pose la question.
Fait que tu sais, je te dirais, moi, de un, les troubles de santé, moi, ma vision des choses, c'est que tout revient à qu'est-ce qui rentre à l'intérieur de ton corps. Parce que ton corps est... on va dire, un diffuseur de ce que tu manges. Fait que si tu manges des aliments morts et des aliments malsains, ben techniquement, tu n'auras pas d'énergie et tu vas te sentir mal. Tu comprends? Mmh. Fait que la base première, ce serait de réussir à montrer aux gens, voici les aliments que vous pouvez retirer. Puis je pense qu'en France, en Europe, ils ont un système un peu comme ça. C'est qu'ils ont le... Je ne sais plus c'est quoi le nom, mais ils ont un score sur les aliments. Puis tu sais, tu prends, mettons, un fromage très, très gras, avec lactose et tout, puis le fromage est codé 32. Puis après ça, tu arrives, tu prends un autre fromage maigre avec beaucoup de protéines, sans lactose, puis là, il est codé 86. Fait qu'eux autres, ils ont un score comme ça, où ils ont un système en tant que tel. Je pense que c'est A, B, C, D ou E. Tu sais, ils ont un système comme ça. Fait que l'aliment qui est codé A ou 80% et plus, c'est des aliments qui sont bons. Fait que moi, je reformerais complètement le système pour indiquer le Fruit Loops, c'est un 2. Après ça, tu arrives sur le pain wrap de blé entier. Ben, gars, écoute, on avait parlé dans un dernier podcast, 13 produits chimiques à l'intérieur. Malheureusement, ton produit, à cause des 13 produits chimiques, toi, le producteur, t'as mis 13 produits chimiques à l'intérieur pour ta conservation puis tout, fine. Mais on va aller le coder, puis ça va devenir un 12 sur 100. Fait qu'un système de pointage de même pour que les gens, juste avec un seul chiffre, soient capables de se dire, « Hey, je vais juste, à partir de maintenant, prendre soin de moi et manger juste du 80 et plus. »
Parce que, tu sais, mettons, moi, mon take là-dessus, si je te dirais, je pense que c'est un mix des deux, mais c'est la responsabilité des gens, tu sais, dans le sens que, oui, clairement, le lobbying, toutes les compagnies, leur objectif, c'est pas de te mettre en santé, c'est de faire du profit. Tout le monde le sait. Peu importe qui, ils le savent.
Ouais.
La seule affaire, c'est qu'ils te forcent pas à l'acheter, mettons. Fait que, tu sais, moi, je me dis, faut que. Oui, il y a les côtés marketing qui est bien puissant, là, si on s'entend. Donc, oui, il y a un côté qui te force un peu à le faire. Mais au bout de la ligne, c'est quand même toi qui paye, qui prend ton portefeuille pour acheter le sac de chips ou la boîte de Fruit Loops. Fait que, tu sais, moi, mettons, je crois beaucoup, beaucoup, puis tu l'as dit tantôt, mais à l'éducation. Fait que le fait d'éduquer les gens à faire des meilleurs choix, puis pas juste de dire « Ah, c'est important de bien manger ». Parce que bien manger, c'est quoi? Puis littéralement, là, hier, j'en parlais, puis je riais avec une cliente parce que, écoute ça, j'ai un client qui est venu me voir, anecdote 30 secondes, il est venu me voir, puis quand j'ai regardé son journal alimentaire, sa collation au PM, c'était des noix. Sais-tu combien de grammes de noix qu'il mangeait?
200.
250.
Ben non,
et là, j'y envoie une photo,
screenshot, écoute ça.
J'envoie une photo, je marque, hey, as-tu rajouté un zéro sans le vouloir? 25 grammes, ça serait comme logique, mais là, c'est marqué 250, c'est moi qui ne comprends pas. Il dit, non, j'ai vraiment pesé. Man, 250 grammes de noix, j'ai fait des calculs, c'est genre 1500 à 1700 calories, dépendamment des noix. Mettons, mets 1500 dans le minimum. Le gars veut perdre du poids. Fait que l'affaire, c'est que si j'ai posé la question, hey, mettons, est-ce que tu manges santé? Il me dirait, ben oui, je mange des noix. Parce que manger santé, c'est quoi?
C'est de manger des noix.
Non, mais tu sais, manger du poulet, c'est santé, mais si tu manges 5000 calories de poulet, fait au bout de la ligne, c'est qu'il manque d'éducation. Parce que souvent, c'est tu sais, manger santé, justement, c'est un peu ce que le gouvernement va dire. C'est manger santé. On doit manger santé.
Ouais.
Mais manger santé, c'est quoi?
Ouais.
Les jeunes ne le savent pas.
C'est là le point de dire. Parce que en ce moment, si tu t'en vas, mettons, aux États-Unis, c'est qui doit. Tu sais, eux autres, mettons que tu es malade, là, tu payes 50 000, tu vas avoir ton traitement. Fait qu'eux autres sont beaucoup plus responsables de leur propre santé parce qu'il n'y a pas une autorité qui leur offre en tant que telle, on va dire, des solutions curatives. Tu comprends? Nous autres ici, l'être humain canadien a décidé d'arrêter de prendre responsabilité sur leur santé parce qu'il y a un gouvernement
qui, s'en occupe pour eux
qui va s'en occuper pour eux autres. Fait qu'ils se retrouvent dans une situation où c'est pas grave.
Ben, c'est là le point que je te dis. Donc, c'est les gens... Dans le fond, c'est la responsabilité des gens et non...
C'est à eux de reprendre responsabilité, c'est mais ça. Le système tend à nous montrer qu'on ne doit pas être responsable parce qu'ils s'en occupent de nous.
Je suis d'accord.
Fait que si moi, je deviens une autorité, je vais former les personnes et je vais leur montrer. C'est ça,
c'est
le point. Puis le dernier point dans tout ça, puis il va chambouler, puis après ça, je pense qu'on va mettre fin. Mais
ouais, on va close
lui,
ça,
ça en est un gros. Mais check bien. Puis ça, c'est personnel à moi, mais je le ferai. J'ajouterais, on est tanné d'entendre ça, une taxe. Mais une taxe santé. Chaque aliment malsain évalué par une autorité compétente, une personne qui va évaluer...
Sans passant, il y a... Genre, c'est des discussions qui sont déjà en tombe.
Actuellement?
J'ai déjà entendu parler de ça. Ça serait vraiment une bonne affaire.
Ça serait vraiment une bonne affaire. Ajouter une taxe santé sur chaque aliment malsain évalué par une autorité compétente et offrir une déduction d'impôt pour les aliments santé. Mm. Ça veut dire que si toi, tu prends soin de ta santé et que tu achètes 90 % des aliments qui sont sains, comme de la salade, comme des épinards, comme du poulet, comme des noix, des choses de même, bien, à la fin de l'année, les montants total de nourriture que tu as acheté, tu as une déduction d'impôt par rapport à ça, un pourcentage, quoi que ce soit. Et de l'autre côté, si tu achètes du McDonald's, des bonbons, des jujubes, des cochonneries, ben tu as tout le temps une taxe supplémentaire face à ça.
Et en plus d'avoir moins de cochonneries, donc tu tomberais moins malade, fait, tu leur donnerais moins d'argent à cause de toutes les petites cossins qu'ils vont te donner. Mais en plus de ça, tu leur donnerais moins d'argent parce que tu veux que tu... ça serait bien d'en penser.
Ça n'arrivera pas.
Non, c'est ça.
Mais tu sais, dans le fond, pour faire un résumé, je ferais une réforme 360 des valeurs du système scolaire. J'apprendrais aux gens comment bien s'alimenter. J'ouvrirais un poste à la télévision et sur les diffuseurs. Puis c'est un poste qui est gratuit à tout le monde, puis tout le monde a accès à ça. C'est le gouvernement qui fournit ça, mais en tant que tel, c'est vraiment pour... montrer aux gens comment bien s'alimenter, puis c'est vraiment des formations en continu tout le temps. Un autre point aussi, je marquerai dessus les valeurs nutritives un Metascore, et chaque aliment doit passer dans une autorité, et le Metascore est classé par rapport aux OGM, par rapport aux produits chimiques et tout. Ton pain wrap, 13 produits chimiques, c'est un 12. Tu vas avoir ton produit comme ta pomme, c'est 98 %. Là, si est OGM, 80. Fait que tu sais, tu vas pouvoir tout le temps gager ça de même. Et le dernier, je rajoute une taxe santé sur tout.
Dernière question. T'as une phrase pour répondre. Je vais dire la même affaire. J'ai pas de réponse en passant dans ma tête. Fait, je vais essayer juste de trouver quelque chose. Si tu pouvais donner un conseil ultime à nos internautes qui changeraient leur santé, ce serait quoi? Une phrase. Mon Dieu, le mien, parce que je viens de le popper dans ma tête.
Vas-y.
Éduquez-vous.
Ouais.
Moi, ça serait ça.
C'est un bon point.
Éduquez-vous.
Moi, je te dirais, écoute, honnêtement, même si tu essaies, mettons, de prendre soin de ta santé, tu vas aller sur Internet, tu vas être bourré de désinformations. Ce sera pas un mois en passant. Tu es bourré de désinformations. Tu t'en vas voir un coach, la plupart, puis c'est pas pour bâcher, mais il y en a des très bons. Mais la majorité vont être de bonne foi, mais ils n'ont pas les compétences, le professionnalisme ou tout simplement l'encadrement pour être capable de t'amener au point que tu veux aller. Après ça, les autorités actuelles, on va s'entendre, c'est pas du tout, mais pas du tout leur objectif, puis ça se voit, c'est flagrant. Je vous dirais... venez nous voir. Ça serait pas mal la seule phrase. Puis, tu sais, c'est parce que on va être capable littéralement de dire si on est capable d'aider les gens. Puis si on n'est pas capable, on va juste tout simplement référer ou conseiller du mieux qu'on peut. Mais en général...
Donc, ça revient à éduquez-vous.
Éduquez-vous. Allez voir du monde qui sont sérieux dedans le vouloir d'éduquer et d'aider. Je pense qu'on a besoin, quand on veut s'éduquer dans quelque chose, quand on veut prendre le contrôle de quelque chose... aller se coller un mentor. Puis c'est la meilleure façon d'avancer, que ce soit en finance, que ce soit en santé, que ce soit dans le développement personnel, que ce soit dans n'importe quoi, je pense pas mal la meilleure chose. Fait que ma réponse est plate, elle fait un peu pitché, mais ce serait de venir nous voir parce que je sais qu'on a à cœur d'aider les gens, puis je sais que les personnes, quand ils viennent nous voir, on est capable de les aider drastiquement. Fait que ce serait un peu ça ma réponse.
J'adore. Fait qu'écoute, ça close le podcast. C'était super intéressant, ouais. Dit de même. Premier épisode de la saison 2. Ça part différemment à la saison 2. Ouais. Donc, et voilà, ça fait le tour. Merci à tout le monde de votre écoute. Puis, honnêtement, c'était des discussions. Fait que si vous avez des commentaires, je sais que sur Spotify, on peut pas laisser de commentaires. D'un, laissez un beau 5 étoiles sur les plateformes Balado, ouais. Spotify, YouTube. Vous pouvez liker, faites la petite cloche pour qu'on sorte en premier si jamais vous aimez le contenu. Mais si jamais vous êtes sur YouTube et ça vous intéresse, si vous avez des questions ou juste des commentaires ou juste des points que vous vous aimeriez ajouter par rapport à ce qu'on a dit, ou que vous n'êtes pas d'accord, ou bien que vous êtes au contraire d'accord, c'est bien correct, c'est toutes des opinions, là. Dites-les, puis ça sera super intéressant de vous lire. Fait que merci à tous. Ça fait le tour pas mal, Jay?
Ouais, dernier petit point. Allez nous suivre, Clinique Phoenix, sur Facebook, sur toutes les réseaux, en fait. On est étiqueté comme Clinique Phoenix. On partage énormément de contenu. À chaque vendredi, on a un nouveau podcast. On a 80 épisodes de podcast en tête. On a plein de sujets différents qu'on va pouvoir vous lancer. Fait que littéralement, suivez-nous. Cliquez sur la cloche comme ça, me dit, laissez-nous un 5 étoiles. Merci d'avoir été présent, gang. On espère que vous avez aimé ça. Passez une bonne journée.
Bonne journée. Bye-bye.